l'Angleterre se met en tête par le biais de quelques agents qui se sont fait les avocats en fait de la conquête de l'Himalaya, se mettent en tête donc d'aller les premiers sur ce qu'on appelle alors le troisième pôle. Le troisième pôle étant évidemment l'Everest, le sommet de la Terre. Donc le livre revient sur l'organisation, l'entreprise de lobbying de quelques alpinistes, explorateurs, cartographes, scientifiques, géologues, qui ont pu passer pas mal de temps dans la région du Sikkim et du Tibet, qui pour certains d'entre eux ont déjà ouvert les portes du Tibet de manière clandestine, à l'époque où le Tibet n'avait pas encore passé d'accords commerciaux et militaires avec l'Angleterre, permettant un libre accès au royaume. On découvre, vraiment il y a des pages absolument passionnantes sur la manière dont certains géographes étaient mandatés par l'Empire britannique pour partir 2-3 ans parfois, remonter le fil d'une rivière dont on ne savait pas trop exactement son tracé et qui, revenant à la civilisation 3 ans après, se retrouvaient hébétés devant des gens qui ne savaient pas qui ils étaient, puisque tous les gens qui leur avaient commandé ces études les avaient envoyés en solitaire défricher des territoires inconnus, étaient morts ou n'étaient plus en fonction, en place. Donc l'idée même en fait poser le pied pour la première fois sur le troisième pôle remonte déjà avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale vient complètement retarder tous ces plans jusqu'à une conférence de presse qui sera capitale en 1919 à Londres, qui réunit tout le gratin du club alpin britannique, de la Royal Geographical Society britannique, un certain nombre d'hommes politiques, mais aussi quelques vétérans qui ont réchappé à la mort, qui se trouvent être aussi des alpinistes. C'est au cours de cette intervention, cette conférence de presse, qu'on peut entendre un certain John Noel, par exemple, qui allait devenir le cinématographe des expéditions de 22-24, faire une allocution où il vient enflammer le public en expliquant à quel point accéder au camp de base de l'Everest n'est pas du domaine de l'impossible. D'un seul coup, cet horizon se met en place, l'horizon des possibles se met en place, et des financements sont trouvés, l'organisation des expéditions se met en place selon des critères drastiques de nationalité. Il faut avoir en tête que ces expéditions sont montées selon un principe d'allégeance aussi à la couronne britannique. Il était hors de question pour certains membres, par exemple de la RGS ou de l'AC, de faire appel à des citoyens australiens, canadiens, faisant partie pourtant du Commonwealth. Mais il s'agissait vraiment bel et bien aussi de mettre en avant la nationalité britannique, d'où des tractations, des négociations, des palabres sans fin pour savoir qui, parmi les survivants de cette première guerre, pourrait faire leur bon office de naturaliste, géologue, cartographe, géographe, mais aussi alpiniste, puisque les expéditions en fait de 21, 22, 24 sont montées selon des mandats très différents, des mandats scientifiques qui étaient d'abord de la reconnaissance, prélever des éléments de faune, de flore, reconnaître, cartographier l'ensemble des passes, des cols, des vallées pour découvrir le chemin d'accès au camp de base de l'Everest, mais il y avait un mandat aussi clairement sportif qui était de franchir, atteindre le sommet de l'Everest.
In the spring, one sunny day, my sweetheart left me, Lord, she went away, and now she's gone, and I don't weary, Lord, I'm sitting on top of the world. She called me up from down in El Paso, she said, come back, Daddy. And now she's gone, and I don't worry, Lord, I'm sitting on top of the world. Mm-hmm.
you don't like my peaches, don't you shake my tree. And get out of my orchard, let my peaches be. And now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. And don't you come here running, holding out your hand. I'm gonna get me a woman like you got your man. But now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. It was in the spring, one sunny day, my sweetheart left me. Lord, she went away. And now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world.
Je te retrace vraiment le fil détaillé de ces expéditions. En 21 se met en place la première expédition, qui est, dont le mandat est très clairement un mandat de reconnaissance. Il ne s'agit pas du tout d'aller sur le sommet. Se trouve en son sein déjà George Mallory, qui sera le seul alpiniste en fait, à participer aux trois expéditions. Sa présence au sein des trois expéditions fait l'unanimité. Jamais il a été question de chanter son nom, sa présence. Il était évident que c'était sur lui que pourrait reposer en fait les chances d'atteindre le sommet. Dans la première expédition de 21, il y a un personnage en fait dont on a assez peu parlé, retenu dans les livres d'histoire, qui est Oliver Wheeler. Wheeler est un géographe, cartographe canadien, et sa nationalité même lui a valu, c'est la raison même pour laquelle son nom a été effacé des livres d'alpinisme. Il était absolument détesté par Mallory. Il se trouve que Wheeler en fait est vraiment la personne qui a découvert le passage du col Nord en 21. C'est l'homme qui aura passé le plus de temps au-delà de 6000 mètres seul avec son tripode à prendre des mesures de hauteur de l'ensemble des montagnes, cols environnants. Et Mallory, jusqu'à sa mort, hein, dans sa correspondance personnelle, mais aussi ses allocutions publiques après l'expo de 22, continuera de diminuer et amoindrir le rôle de Wheeler dans la découverte du col Nord, du passage du col Nord. Et j'en viens en fait à préciser un peu mon propos. En 21, donc pendant cette première expédition, se trouve un membre qui s'appelle Kellas, qui est adoré de la plupart des membres de cette expédition. Kellas, c'est un vétéran qui est allé déjà pas mal de fois dans les vallées environnant la face nord de l'Everest. C'est un explorateur qui a des récits incroyables derrière lui. Et il est beaucoup plus âgé, il a une cinquantaine d'années que ces autres hommes, qui donc tous ont servi en tant que chirurgien, officier, pour l'armée britannique pendant la première guerre. Et Kellas, en fait, qui est vraiment une personne qui force l'admiration, le respect, meurt pendant la marche d'approche. Ce sera la première victime britannique, en fait, de ces trois expéditions. Les trois expéditions, en fait, verront Kellas mourir en 21, Irvine Mallory en 24, 7 Sherpas sont morts en 22, et 2 Sherpas sont encore morts en 24. Donc Kellas, c'est la première victime, en fait, de cette série d'expéditions britanniques. Et Kellas, en fait, n'était pas du tout physiquement prêt à s'acclimater, à marcher le long de ce trek d'approche de plusieurs centaines de kilomètres, partant de Darjeeling, franchissant le Sikkim indien, rentrant dans le territoire tibétain. Donc Kellas meurt et à un moment où cette dizaine d'hommes réunis sont là ensemble, sont partis en bateau depuis l'Angleterre jusqu'à Darjeeling, ils sont ensemble depuis plusieurs mois, ils se respectent, certains se connaissent déjà de certains clubs alpins, d'expériences d'escalade en Angleterre depuis des années, ils sont connus avant la guerre. Et Kellas est enterré, inhumé. Et il y a un petit fait dissonant en fait qui est difficilement compréhensible pour nous, lecteurs contemporains de cette histoire. C'est que le jour où Kellas est enterré, Wheeler, ce cartographe canadien, part marcher. Il décide de ne pas assister à l'enterrement. Et le plus étonnant, c'est que dans aucun des journaux intimes, aucune des lettres échangées entre les membres et leurs familles, leurs épouses, aucune remarque n'est faite de l'absence, aucune mention n'est faite de l'absence de Wheeler et l'enterrement. Wheeler lui-même ne consigne absolument aucune trace de commentaires acides, de jugements qui auraient pu lui être adressés pour son absence. L'entrée de son journal intime ce matin-là dit juste qu'il déteste les enterrements. Et que par ailleurs le temps est pas si mal et que c'est l'occasion d'aller un peu marcher et vadrouiller autour du site où il se trouvait. Et ce premier événement en fait peut-être symptomatique d'un rapport très étrange pour nous que ces hommes qui pour certains avaient été diagnostiqués shell shock. Victime de traumatisme dû à l'éclat d'obus à leur proximité, qui s'est rentré donc dans des phases de, tu pourrais en parler bien mieux que moi, j'imagine, de repli intérieur, de dépersonnalisation, je ne sais quoi. Aucun de ces hommes donc ne commente l'absence de l'un d'entre eux, comme si en fait la mort appartenait à une sphère privée, en dehors de tout examen moral, jugement moral, que la mort, chacun d'entre eux l'avait tellement affronté, la mort, chacun d'entre eux l'avait tellement examiné de près et appris à vivre avec, que on n'allait jamais émettre le moindre commentaire, voilà, quelques années après, sur la manière dont on pouvait exorciser ou vivre avec le deuil de l'autre. Ce qui m'amène très lentement à orienter ma lecture de ce livre autour de tes propres préoccupations, Yelena, qui est donc cette proximité à la mort que ces alpinistes ont pu développer, et qui pourrait peut-être, à nos yeux, expliquer le challenge que c'était fixer ces hommes partis en tweed, en laine, avec un équipement complètement rudimentaire, des crampons qui étaient inutilisables à une certaine altitude. À nos yeux, en fait, il y a quelque chose d'absolument invraisemblable à comprendre l'état d'impréparation, la faible technicité du matériel utilisé par ces hommes qui se lançaient donc dans une ascension à 8850 mètres et quelques. Voilà, je déblatère depuis tout à l'heure, mais j'aimerais bien en fait qu'on engage une conversation peut-être sur ce que tu peux toi connaître du rôle que peut jouer dans la tête de certains de ces alpinistes, ces expériences qu'on pourrait qualifier dans le cas d'une guerre de mort imminente permanente. Je sais que toi, Yelena, tu as étudié plus précisément et méthodiquement ces expériences en montagne notamment et les conséquences que peuvent avoir ces expériences par la suite dans la tête de ces alpinistes. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà pas réagir, commenter à ce que je viens de dire, cette trop longue
oui, introduction. Non, mais en fait c'était très bien de faire cette excursion longue et détaillée dans cette entreprise par étapes en fait de l'ascension de l'Everest. C'est là où c'est intéressant son travail de source, parce que ça permet de montrer, et je pense que c'est ça l'apport majeur du livre, de montrer en fait que justement ce rapport spécifique en fait que ces alpinistes avaient à la mort et qui était lié à leur expérience de guerre. Et puis habituellement, en tout cas dans l'histoire de l'alpinisme, on est beaucoup focalisé sur les origines, disons, soit expansionnistes, justement des donc pour montrer que c'est une politique expansionniste des États, des corporations, parfois aussi les médias, on en avait parlé tout à l'heure, qui payent déjà les expéditions en entier, c'était déjà le cas à la fin du 19e siècle. Le New Yorker qui payait l'expédition pour gravir un volcan au Mexique, par exemple, en 1896, il y avait déjà ce type d'entreprise. Donc, en fait, d'un autre côté, on peut parler aussi d'une entreprise des intellectuels, je veux dire, c'est surtout des hommes savants, bien qu'il y ait eu des femmes savantes aussi, justement. Annie Peck, c'était une des pionnières de l'alpinisme, mais on reflète plutôt les origines expansionnistes, sportives, ou alors l'alpinisme comme une expansion. Puis on n'avait pas vraiment pris en compte les motivations ou l'expérience en fait de ces alpinistes qui étaient les figures majeures des grandes expéditions. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce lien que ces alpinistes britanniques avaient été combattants, avaient été diagnostiqués à un moment donné, avaient des souffrances psychologiques ou pas? Puis en quoi, en fait, en tant qu'historien, si on s'intéresse à leur parcours, en fait, ça nous permet de montrer ce que ça devient, en fait, l'expérience de l'alpinisme dans un contexte bien sûr expansionniste, mais c'est plus que ça, et ça je trouve que c'est, je dirais, l'apport majeur de ce livre, justement de montrer ce lien très étroit avec l'expérience de la guerre.
Thank you.
après, enfin aussi j'avais avant, quand tu m'avais parlé de, c'est vrai, j'avais jamais réfléchi à ça, mais le titre en fait, Into the Silence. Enfin, j'aurais voulu te demander aussi si je peux revenir après sur les experts de l'environnement. Mais si tu avais compris ça comme moi a priori j'avais compris Into the Silence comme évidemment ce retrait de la civilisation et de rentrer dans ce paysage presque fantasmique, ils en parlent aussi dans le film, non, que les peuples autochtones parlent de ce paysage comme un paysage féerique où on ne sait pas quel type de créatures ils vivent. Donc c'est un monde mythologique, un monde et aussi potentiellement seul, puisque si on est face à la force violente de la nature, bah, ça nous rend justement, ça peut être le silence du paysage, mais ça peut être le silence de face à cette face à un danger ou cette omniprésence presque écrasante d'une force violente de la nature. Alors du coup de lier en fait Into the Silence à cette expérience d'ébranlement dans une guerre qui n'est pas forcément le silence en fait, parce que les traumatisés de guerre entendent bien parfois des voix, des cauchemars, mais ce n'est pas forcément un silence, mais c'est peut-être un isolement face aux autres, face à la réalité vécue. Et du coup je me suis demandé si toi tu avais fait spontanément cette lecture, bien est-ce que l'auteur il le soulignait vraiment à un moment donné, ce rapprochement? Peut-être pas forcément.
Pas forcément. De ce que je peux me souvenir du livre, et c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est que le Wade Davis esquisse à plusieurs reprises le paysage sonore d'un champ de bataille. Ce qui était encore un champ d'investigation peu connu, je crois, il y a quelques années. Je crois que des chercheurs s'y sont intéressés, notamment en France, à l'occasion des commémorations de la Grande Guerre, il y a à peine quelques années, parce que, à la différence de la Seconde Guerre mondiale, il y a très peu de documents sonores, je crois, qui ont été archivés de la Première Guerre mondiale. Donc il est très peu aisé de reconstituer ce paysage sonore et violent qui a pu se dessiner autour de eux pendant 4 ans. Et Davis, au travers l'épluchage de certaines de ses archives militaires, retrace un peu ce paysage sonore et en décrit une violence extrême et absolument qui touche au tréfonds du corps, qui vient ébranler le corps, le faire résonner. Et donc moi, Into the Silence, le titre, je l'ai plutôt interprété comme une, peut-être de manière restrictive, hein, comme une retraite vers le silence après cet assourdissement qui est venu sonner littéralement ces alpinistes. Mais je pense que tu as complètement raison de parler du silence qu'impose ou que provoque la nature, le spectacle de la nature, comme le silence de la nature elle-même.
C'est curieux, on pourrait demander si quelqu'un qui a vécu un isolement de part de détresse psychologique, aussi par le deuil, donc une sorte d'incapacité peut-être de re-rentrer dans le quotidien après la guerre. Est-ce que, bon, après c'est la spéculation, est-ce que ce type d'expérience d'isolement ou de non-accordance pourrait être de la motivation aussi de trouver de nouveaux types d'isolement, parce qu'au fond, le risque dans ces expéditions, c'est toujours de se retrouver seul ou mort.
Ouais.
says almost a confession of galaxies and almost evolving and almost a polygon.
Donc quel film ?
Le Soufrière.
Ah, de Herzog ? Oui.
Oui. C'est
Je pense que je vois la scène à laquelle tu penses.
Ah, c'était Warten auf die unausweichliche Katastrophe.
Uh-huh.
Ça veut dire attendre la catastrophe qui est inévitable.
Oui.
Et donc, c'est un film sur cette éruption. De Guadeloupe, c'est un récit historique d'un côté, puis aussi ce danger imminent, c'est dans les années 70, une éruption à venir, c'est-à-dire une trentaine de minutes. Et donc même l'équipe de film avec Herzog monte vraiment sur les pentes du volcan, qui sont vraiment déjà très chaudes, et puis je crois qu'ils brûlent aussi une certaine partie de la structure. Après, on ne sait pas jusqu'à quel point ils sont. Enfin, c'est une mise en scène, mais c'est pas important, mais disons, ils s'aventurent sur le volcan alors que l'île a été complètement évacuée. Il n'y avait plus personne. C'est une île entièrement déserte. Et tout le monde attend, en gros, l'éruption et la destruction du paysage.
Ouais, tout le monde attend, c'est-à-dire les animaux qui sont restés sur l'île et quelques villageois, c'est ça, hein,
oui,
je crois, qu'ils rencontrent.
Du coup, il y a quelques villageois qui sont restés. Et qui était d'une tranquillité extrême, couché dans l'herbe, enfin dans une forêt un peu sur l'herbe, et puis en commentant quand tu leur poses la question, mais vous n'avez pas peur, vous ne voulez pas fuir comme tous les autres, c'est une chose là, c'est un an, mais moi ça me. J'attends ici, je veux que m'écrase ce volcan, cette éruption. Donc il m'écrase, il y a une sorte presque de résistance à ce destin inévitable, où c'est la nature qui décide de leur destin.
Ouais.
Et là il y a un autre type de rapport à l'isolement, où c'est presque un fatalisme un peu de s'exposer à un destin naturel, et puis d'y prendre, et que ça peut provoquer en fait une aisance ou presque une distance.
Mais tu sais, en 24, lorsque Mallory repart pour la troisième fois sur l'Everest, encore une fois, c'est le seul à avoir accompli les trois expéditions. Il n'avait pas son pareil. Personne ne connaissait mieux que lui la paroi. Il avait déjà ausculté sous tous les angles possibles à deux reprises précédemment. Mallory, je crois, en 24, doit avoir 38 ans, 37, 38 ans. Et il sait très bien quand il y va. Il est marié, il a des enfants, par ailleurs, il a des attaches familiales très claires. Mais il sait très bien qu'il n'y aura pas de quatrième fois pour lui.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui rejaillit dans sa correspondance. Il y a une espèce de... pas de fatalité, mais il sait qu'il va tout jouer là. Et que rien ne va l'arrêter, sinon la montagne. Comme une espèce de... je sais pas, de... je dis pas d'absence de crainte, parce que je pense pas que c'était... ces dispositions par rapport à la montagne, c'était pas... tout étourdi qu'il pouvait être comme alpiniste, c'était évidemment quelqu'un d'absolument responsable et conséquent dans ses actes. Mais par ailleurs, j'imagine qu'il avait en tête que pour y parvenir, il y resterait peut-être.
Coming down. to Dionysus you'd like to kill. In your mind to the Azure Dome.
Davis, je t'évoquais cette phrase hier. Ouais. Tu parles d'une chose très belle quand il commente dans les dernières pages du livre, donc là, je vais encore digresser. Il commente la. Et essaie de mettre un terme à ce débat sans fin qui dure depuis 15 ans maintenant, de savoir, enfin même pas depuis 15 ans, mais qui dure véritablement depuis 90 ans, savoir si Mallory et Irvine sont parvenus en 24, est-ce qu'ils sont morts alors qu'ils tentaient l'ascension, ou est-ce qu'ils sont morts en chutant, en revenant du sommet. Ce qui changerait considérablement l'histoire de l'alpinisme, en tout cas l'himalayisme. Et discutant ces, voilà, ces différentes hypothèses absolument détaillées et réalistes, savoir par la face nord, voilà, étant donné le dernier moment où on les a vus, le 8 juin 1924 à 12h50, John O'Dell, de là où il se trouve, voit ces deux silhouettes approcher d'un éperon rocheux. On ne sait pas trop encore s'il s'agissait du deuxième ressaut ou du troisième ressaut que compte la face nord-est de l'Himalaya. Davis revient sur voilà, la difficulté objective rocheuse que constitue le deuxième ressaut, qui est un mur d'une dizaine de mètres, qui commence relativement facilement et qui finit par une difficulté d'environ 5. Une difficulté 5, c'est-à-dire un niveau d'escalade qu'aucun Britannique ne connaissait alors dans les années 20. Il ne pouvait pas expérimenter à ce moment-là en fait des difficultés techniques aussi grandes. Donc de là, imaginez qu'à 8600 mètres, un Irvine du haut de ses 22 ans qui n'avait aucune expérience d'escalade puisse suivre un excellent grimpeur comme Mallory pouvait l'être, mais dans leur état de fatigue, de déshydratation, parvenir à surmonter un tel bloc de pierre. Qui n'était évidemment pas équipé, alors qu'il le sera à partir de 65, je crois, par les Chinois. Désormais, le passage de ce mur se fait de manière équipée par une échelle. Évidemment, à ce moment-là, il en était hors de question. Quand bien même ils y seraient parvenus, leur corde de rappel n'était pas assez longue pour leur permettre de revenir par ce ressaut. Il aurait fallu désescalader le mur, pas faire de rappel. Bref, les raisons objectives de croire qu'ils y sont parvenus sont très minces. Mais il en reste une que Davis relate, qui est les chutes importantes de neige qui étaient tombées sur l'Everest pendant la troisième expédition, qui avait obligé certains membres, je crois que c'était Norton, de se replier à deux reprises à cause de la violence de ces chutes. Et on peut imaginer, parce que le scénario s'est reproduit ultérieurement, que ce deuxième ressaut rocheux ait pu être couvert d'une épaisse couche de neige qui aurait adouci l'extrémité supérieure du mur et aurait permis peut-être à Irvine et Mallory de passer sans trop de difficultés techniques. Et j'aime beaucoup ce passage final du livre qui, voilà, faisons cette hypothèse qui paraît irréaliste. Mais si tel fut le cas, alors rien n'aura empêché Mallory de foncer, de walk on till his end. Au sens où encore une fois, Davis reprend cette phrase de Mallory qui dit « Pour nous, pour lui, pour les hommes de sa génération, la mort c'est juste cette frontière fine que l'on traverse galamment avec le sourire. » Parce qu'à ce moment-là, la mort fait moins peur, en tout cas, l'attachement à l'expérience de la vie est plus important que la vie. Voilà. Et lorsque l'expérience de la vie, le sentiment jubilatoire de vivre un tel moment intense est plus important que la vie, la mort ne fait plus peur. Et c'est parce que Mallory était sans doute dans cette disposition-là, comme un homme typique de sa génération, qu'il aurait foncé, peut-être en sachant, en ayant conscience de ce que ce serait un chemin à sens unique, sans retour possible, mais que c'est pas ça qui allait l'arrêter.
I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.